France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La puissance de l'imagination. Enfant, on s'imagine des histoires, des lieux, des créatures, voire des amis. On les imagine tellement forts que parfois ils deviennent réels. On forge avec eux des souvenirs, on vit des moments de joie. Et soudain, on nous impose la primauté de la réalité. Notre imagination ne serait qu'un chimérique instrument d'artifice, une tromperie dangereuse à laquelle il ne faut pas donner de valeur véritable. C'est pourtant peut-être là que réside notre singularité la plus profonde, dans notre capacité à créer ex nihilo, en décalage total avec le réel. C'est en tout cas ce que peut inspirer le début de ce quatrième entretien avec la professeure de composition Nadia Boulanger, au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, où elle raconte comment, dans son enfance, elle s'était inventé une ferme tout entière qu'on lui aurait offerte, et dont elle se rappelle encore au moment de cet enregistrement, à l'âge de 89 ans. Dans ce document exceptionnel, enregistré en 1976, cette anecdote sert d'introduction à l'esprit extraordinairement riche de Nadia Boulanger. Chaque événement qu'elle raconte semble avoir été vécu avec une intensité presque mystique, une joie qu'on ne peut que lui envier. Ce récit autobiographique rare, dont l'intérêt dépasse largement le monde de la musique, fut diffusé pour la première fois le 3 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, elle est la musique en personne. Saint John Perse.
Vous savez, ils ont fait une représentation de Horace à Rome. Et alors qu'on m'apportait le cortège avec Camille, tout d'un coup, personne n'avait jamais pensé à ça, pleine lune, merveilleuse pleine lune, et entre les deux colonnes, quand ils sont arrivés avec la litière sur laquelle reposait, minuit a commencé à sonner. Jamais personne n'avait prévu dans la mise en scène ça, ils sont arrêtés. Et ils sont restés jusqu'au 12e coup immobiles. Il paraît que c'était un effet extraordinaire, dramatique, mais en effet, bing, 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 les 12 coups. C'est merveilleux. Et quand on connaît ce paysage, ces deux colonnes, la pleine lune, enfin, toute l'histoire, tous les siècles qui reviennent parmi nous... Mm-hmm.
Vous avez assisté à cette représentation?
Mais je crois que j'ai assisté, parce que je le vois.
On vous l'a raconté de manière...
Comme il y a eu un article merveilleux de Monterland sur un concours de chant populaire en Espagne. Et celui qui a été le vainqueur est un petit aveugle. Vous savez, il faut que je sois menteuse pour dire que je n'y étais pas. Moi, j'ai vu ce concours. J'ai vu le jeune aveugle, je pense à lui. Or, je n'ai rien vu du tout, je n'avais jamais été en Espagne à ce moment-là. L'évocation que donne Monterland était si extraordinaire, je dis, ah mais oui, je connais, je sais. Et puis je sais que c'est pas vrai. Mais naturellement, je dis, oh, quand j'étais au concours, que ce petit aveugle a chanté. Puis arrête-toi. Arrête-toi. J'invente, mais j'invente pas.
La manière de le décrire de Monterland vous a fait une impression?
Mon cher, j'ai 4 ans. C'est Noël. Nous avons une voisine au premier étage. Maman me dit, va dire bon Noël à Madame Delpuget. J'arrive chez Madame Delpuget, qui me dit, oh, comme c'est gentil que tu viennes, et il raconte, moi, tu as eu un joli Noël. Oui, oui, et qu'est-ce qu'on t'a donné? Alors je raconte un ours, un je ne sais pas quoi, une ferme. Elle, prise de folie furieuse, me dit, une ferme? Une vraie ferme? À ce moment-là, je vois la ferme. J'avais 4 ans. Et je commence à lui décrire la ferme que je vois. Et le lendemain, maman dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as raconté à Mme Delpuget? Je dis, mais ma ferme. Et maman qui ne se trompait jamais. Là, s'est trompée. Elle m'a puni pour avoir menti. Mais il a passé 84 ans, moi je vois toujours ma ferme. Je dois parler de ma ferme chez Madame Delpuget, 30 rue Lavoyer, au premier étage. Je la vois.
Et c'est de l'imagination ou c'est...
Moi, je ne sais, de l'invention, je ne sais pas.
Non, mais est-ce que c'est parce que Madame Delpuget vous
en
avez parlé?
Oh non, elle était une vieille dame, telle que je la représente. Probablement qu'elle n'était pas si vieille, elle a peut-être 40 ans, mais elle me fait l'effet d'avoir 200 ans à ce moment-là. Et la stupéfaction, une ferme? Une vraie ferme? Mais oui, une vraie ferme, avec la maison et les animaux, les moutons, les bœufs. Et ça se développait, c'est devenu Versailles. J'étais à Athènes une fois, et je n'ose pas vous dire, les circonstances me font obtenir mon pardon, mais pour 3 heures. Eh bien, ça a changé ma vie. J'ai vu l'Acropole, j'ai vu ce qui fait tout ce que nous sommes, tout ce que nous portons en nous de précieux, de grave, de joyeux. Vous vous souvenez quand Maurras dit... C'est parce que la passion agitait toute leur conduite que les Grecs mirent le Minerve sur l'autel. L'événement est le plus grand de l'histoire du monde. Il dit plus loin, dans le même, dans Prière à Minerve, ton ouvrier travaille avec une telle, je ne sais pas exact ma citation, avec une telle joie intérieure que son travail est noble, que son plaisir est noble. Il résulte quelque chose de noble. Le jour où je me dis « Athènes ben, », je suis quelqu'un de mieux.
Ça, c'est de la mémoire culturelle.
Ce sont des réveils du passé. L'autre jour, j'étais bien tranquillement chez moi, écoutant la radio. Et tout d'un coup, c'est une digression, mais ça ne fait rien, a retenti les premières notes du duo concertant de Stravinsky, jouées par lui avec Sam Douchkin, qui avait travaillé avec Stravinsky pour la partie de violon, comme vous le savez. Mm-hmm. Comment pourrais-je oser vous décrire ce qui se passe? Le dithyrambe, ce chef-d'œuvre, inexplicablement beau, une ligne, quelques mesures, et on a touché le sublime. La deuxième églogue, la tendresse profonde, le premier accord que joue Stravinsky, l'effusion joyeuse, jeune, merveilleuse de la gigue, le côté tellement relié à de vieilles, j'aime pas beaucoup dire coutume, c'est pas ça, à une vieille relation intime avec l'âme russe. Et on est là avec papa, 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 tira, 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 tira. Quand j'ai souhaité mettre à sa place cette œuvre si extraordinairement importante, nous avons avec Sam Douchkin plusieurs fois, et après avec Paul Makhanovitsky, joué le premier mouvement de la sonate en mi de Bach. Enchaîné avec le dithyrambe silence. Eh bien, très vite, les gens les moins préparés auraient le choc s'ils sont sensibles à la musique, si la musique leur apporte peut-être le plus précieux d'eux-mêmes. Eh bien, c'est une expérience qu'il faut faire, parce que ça s'enchaîne d'une manière si merveilleuse, ça abolit le temps, ça replace la mémoire dans le présent dans la mémoire et dans le passé.
Vous voyez que le rapprochement de deux œuvres écrites à des siècles d'intervalle peut donner quelque chose d'extrêmement frappant?
Vous ne le croyez-vous pas? Thank you. Et alors, tout d'un coup, vous savez qui est Camille et qui est Horace et ce que nous a laissé à travers les siècles Corneille. Mais si je vais simplement une bonne fois, un jour à la Comédie-Française, même très bien joué, je ne sais pas de quoi il s'agit, j'absorbe une dose d'émotion sans une dose d'esprit.
Lorsqu'on rapproche deux œuvres comme la sonate en mi majeur de Bach et le dithyrambe du duo concerto de Stravinsky, vous croyez que c'est parce qu'il y a là deux éléments, deux œuvres qui ne dépendent pas de leur auteur, qui ne dépendent plus de rien du tout.
Mais aucune œuvre très importante ne dépend de son auteur, même ça. Je sais que c'est Tristan, mais je ne pense pas à Wagner. Et je ne pense pas que c'est M. Fontenguer ou n'importe qui dirige. Je pense à Tristan. Je pense à la Joconde. Je pense à tout ce que vous voulez, les Eaux-Fortes de Rembrandt.
Et comment est-ce que vous pouvez faire disparaître ou faire abstraction de la personne qui est...
Écoutez, vous allez un peu trop vite. Parce qu'alors, vous allez au bout de ma pensée, où je me laisse le droit d'aller en silence. Mais je crois qu'il faut le dire. Le moment où le génie est atteint, c'est quelque chose qui est au-delà des mesures habituelles. C'est un moment, alors, 210 cantates de Bach, 210 chefs-d'œuvre au même titre. Vous ne croyez pas un seul instant. Aujourd'hui, c'est la mode de prétendre que ça n'est pas Bach. Mais enfin, si vous jouez. Et puis ça. Il a atteint un moment d'expression humaine qui ne convient pas à tous les moments de la vie. Mais quand vous m'avez là repris au détour du chemin en me disant « mais c'est parce que, c'est pas parce que je pense aussi bien à Platon un jour, à Dante un autre jour et à T.S. Eliot un troisième jour, je ne les rapproche pas fortuitement, je ne les sépare pas fortuitement ». Je sens qu'il y a dans l'expression humaine qui a trouvé une forme quelque chose qui est du même niveau, de la même importance. Et je ne peux pas très bien vous dire quoi. Dans une des cantates profanes, il y a un petit coup des cordes. Ah oui. Quand il arrive à la cadence, le hautbois rentre en solo. Et puis, l'orchestre fait. si vous ne donnez pas le temps de voir tout ça séparément, j'entends que tout est beau. Je suis prise d'une espèce même de panique en me disant, mais je ne peux pas. Mais si vous imaginez ma visite à l'Ermitage, j'avais une heure à passer à l'Ermitage. Il fallait que j'aie vu tout. C'est une question, l'honneur des conservateurs en jeu. Et alors, nous avons commencé à défiler d'une salle dans une autre, dans une troisième, quatrième. De temps en temps, j'avais envie de tourner la tête. Non, pas un diamo, ça c'est à Rome qu'on m'aurait dit ça. Mais, enfin, je ne sais plus, je ne sais pas le russe.
Pas diom.
Mais, pas diom, d'argent. Et pour dire honnêtement la vérité, je n'ai rien vu. Mais je suis resté une heure devant une des colonnes de l'Acropole. Et celle-là, j'ai eu le sentiment que bientôt je la verrais s'il m'était donné le privilège, un signe, de rester plus longtemps à la contempler. Mais dans l'Ermitage, j'ai eu l'impression du péril, de la détresse, d'aller si vite et de tout manquer. Mais la vérité, c'est que une passion qui ne dure qu'une demi-seconde, c'est un peu trop court.
Quand vous parlez de la colonne de l'Acropole, là je comprends très bien l'anonymat. Lorsque c'est Bach, que ça vous intéresse très peu finalement que Bach ait eu 2 femmes et 20 enfants, je comprends très bien. Mais c'est quand même un être de chair qui a...
Oui, mais ça ne me regarde pas. Moi, je ne peux pas penser à M. Jean-Sébastien Bach avec tous ses enfants et sa femme. Après, j'ai fait cette expérience avec 2 hommes que j'ai connus bien, et l'un plus encore que l'autre, c'est Stravinsky et c'est Valéry. Mais quand j'ai entendu l'autre jour le disque, très beau, très émouvant, je n'ai pas pensé du tout. Dire que je le connais, dire que je l'aime tant, dire qu'il est une telle personnalité, que je connais toute sa famille, tous les êtres autour de lui, mais pas pendant. Je n'écoute pas le Sacre du Printemps. Et je me dis, ah, Catherine, ou Théodore. Non, je ne pense ni à Catherine, ni à Théodore, ni à Igor lui-même. Mais il y a une chose que je n'ai pourtant jamais pu faire. Et nous étions profondément liés. C'est de lui écrire « Mon cher Igor ». Impossible. Mon ami... Et je ne pouvais pas lui écrire « Mon cher maître », il aurait cru que je divaguais. Mais lui dire « Mon cher Igor », impossible. J'ai essayé plus d'une fois.
De lui écrire ou de lui dire ?
De lui écrire. Ah non, je lui disais « Bonjour, mon cher Igor ». Mais lui écrire. Mais je ne pouvais pas. Ça me paraissait familier, ça me paraissait petit, ça me paraissait... Il est autre chose que « Mon cher Igor ». Enfin, écoutez, je ne sais pas. Mais je sais, je ne lui ai jamais écrit ça, peut-être une fois. En me disant, il faut tout de même que tu puisses l'appeler par son nom. Pour moi, c'était un nom idéal, comme Valéry était un nom idéal, comme Platon est un nom idéal, et que je trouve très proche les uns et les autres, très, très confondus dans une même approche de l'essentiel.
Et pourtant, vous considérez que la signature existe ?
Elle est là involontairement. Elle ne peut pas être là. Vous comprenez, prenez Stravinsky. Il fait des choses invraisemblables. Il se propose un beau jour d'écrire une œuvre partant de Pergolèse. S'il y a au monde deux choses plus invraisemblablement rapprochées, c'est Pergolèse et Stravinsky. Résultat, un chef-d'œuvre où Pergolèse reste Pergolèse 100%, où Stravinsky reste 100% Stravinsky, et où l'unité de l'œuvre est obtenue.
Thank you.
croyez que je peux faire un cours pour expliquer ça? Je peux pas. Je peux constater que l'unité est obtenue par le dissemblable.
Oui, mais vous pouvez faire un cours pour montrer en quoi certains auteurs n'ont pas de signature.
Ah, mais je ne veux pas dire ça. Je trouve que Pergolèse a signé Pulcinella et que Stravinsky a signé Pulcinella. C'est justement le point qui m'intéresse et qui m'étonne tant, c'est qu'ils ont signé.
C'est très curieux parce qu'en même temps, vous pensez probablement que l'un des deux Pulcinella a plus d'importance que l'autre.
Non, je pense rien. J'écoute Pulcinella. Alors après, je peux bien analyser tout ce que vous voulez. Il y a 150 mesures de la... C'est intéressant. Et paraît-il que dans tout chef-d'œuvre, il y a la preuve de la règle d'or. Mais moi, je n'écoute pas la 9e symphonie en pensant à la règle d'or. C'est une autre occupation de mon esprit. Et quand Bach écrit une fugue... la même fille en faisant. Alors le calcul que ça représente, toute la fugue vit à l'endroit, vue à l'envers, créant deux fugues également belles, tout à fait pareilles, elles sont des jumeaux identiques, complètement différents. Le caractère reste le même, mais les notes... Et quand c'est l'autre fugue à l'envers, ben sont deux fins royales. Quand je commence à prendre plaisir à entendre la musique, à me réjouir, à ce moment-là, je commence à savoir ce que c'est que le lien entre la musique et moi.
Thank you.
C'était la quatrième partie des entretiens avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusée pour la première fois le 3 août 1978.